a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants, glisser sur le lac glacé avec un seul patin et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier. Ihr habt sich verliebt in ein Jüngel, ein Schein, um nach Ken zu ihm nicht kommen.
Dans ces conditions, ai-je été un jeune homme heureux? Je n'avais pas le droit de prétendre que j'étais un orphelin puisque mon père était vivant. Mais j'ai néanmoins grandi avec ce sentiment. Mon adolescence a été très perturbée jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans. Après cela, je ne peux pas dire que j'ai été réellement malheureux, si ce n'est que la situation matérielle pesait si lourdement sur mes épaules. Il m'a fallu prématurément devenir un adulte responsable. Enfant d'à peine 9 ans au moment du départ de mon père, j'avais évidemment du mal à démêler le vrai du faux. Mais après quelques années, j'ai fini par comprendre que mon père s'était enfui parce qu'il avait eu honte de la faillite et qu'il avait choisi une route qui lui permettait d'esquiver l'épreuve. Au lieu d'essayer d'entreprendre quelque chose sur place pour nous sauver tous, il avait en partant, sans le savoir peut-être, choisi le chemin le plus facile pour lui, sans penser à nous. La première année est passée partagée entre le chagrin et l'espoir. Nous croyions que nous allions le rejoindre rapidement, famille et bagages. Il semblait réellement que son objectif, tout au début, ait été de nous faire venir à Paris. Mais les rêves ne se réalisent pas toujours. Dans un deuxième temps, mon père a dû conclure qu'il serait plus commode pour lui de demeurer seul. Tout changea de visage à partir de là. L'espoir se transforma en colère et la colère se transforma en haine. Mais la haine envers un père qui vous manque, un père qui ne revient pas, est quelque chose de particulier. L'enfant se débat entre deux pôles. Seuls les enfants dont le père ou la mère les ont abandonnés sans espoir de retour peuvent comprendre la douleur morale et physique que cette absence impose. J'aurai l'occasion de revenir sur ma rencontre avec mon père après 27 ans de séparation. Je ne peux pas dire que je vivais au jour le jour avec ce cauchemar dans la tête. Non, je passais mon temps comme tous les jeunes gens de mon âge et j'étais un garçon qui aimait la vie. Dans le fond, tout dépend de ce dont un individu a besoin pour se satisfaire. Tout est relatif dans la vie. S'il a les yeux fixés vers le haut et regarde constamment vers ceux qui ont mieux et plus, il ne peut évidemment jamais être content. Malgré tous mes malheurs, je parvenais à être heureux de ce que la vie me donnait. J'ai passé le plus clair de ma jeunesse à travailler durement. Mais je savais utiliser mon temps libre au maximum. Nous terminions toujours le travail entre 22h et minuit. Aussi, nous retrouvions-nous, tailleurs, cordonniers, artisans de différents métiers, pour nous amuser tard dans la nuit. Je ne sais pas quand je dormais. Le Shabbat et le dimanche, c'était l'Amérique. Nous sortions en bande hors de la ville. À Teltz, il n'y avait pas d'autobus, juste quelques taxis et un camion de pompiers. Il fallait donc avant toute autre chose se procurer une bicyclette afin de circuler plus librement. Bien entendu, hors de la ville signifiait à quelques minutes de la ville, car, quelle que fût la direction que nous empruntions, nous étions aussitôt dans la campagne. Pour dire la vérité, les relations avec les filles juives étaient quasiment impossibles. Et même si certaines d'entre elles auraient été d'accord pour nous accorder leur sympathie, c'étaient des filles dont la beauté et le style laissaient à désirer, car les jeunes filles qui nous plaisaient n'auraient jamais consenti à nous suivre et à se montrer en ville avec un garçon. La plupart d'entre elles étaient issues de bonnes familles religieuses et beaucoup fréquentaient le lycée Yavne de Teltz, qui avait une solide réputation. Les jeunes filles de ce lycée étaient très éduquées et parlaient hébreu entre elles dans la rue. Il nous arrivait donc d'avoir un rendez-vous avec une non-juive, une shiksé, en faisant un peu attention à ce qu'elle ne fût pas antisémite. Elle, en revanche, avait moins de principes et ne faisait pas de discrimination à l'égard des garçons moins avantageux. D'autres camarades avaient un goût prononcé pour la politique, comme mon frère Yosef, qui était un membre actif d'une organisation politique de droite, le Bétard. On pouvait les observer tandis qu'ils défilaient au pas dans le parc, en uniforme comme des soldats, tenant fermement un bâton en main. À l'instar des autres partis politiques, ils avaient un local où ils tenaient leurs réunions, après lesquelles ils chantaient et dansaient. Je commençais moi aussi à y venir sur la pointe des pieds, non parce que j'avais embrassé leur programme politique, mais parce qu'on pouvait y jouer au ping-pong gratuitement. Ils avaient aussi une équipe de football amateur, et comme vous le savez déjà, j'étais un grand amoureux de ce sport. Petit à petit, je me mis à jouer avec eux jusqu'au moment où ils me cooptèrent, c'est-à-dire qu'ils m'admirent en leur sein, bien que je n'ai pas été affilié au Bétard. Avec eux, j'eus l'occasion de voyager dans d'autres villes pour des rencontres avec des formations juives ou lituaniennes. Le fils de mon patron fréquentait aussi le Bétard et mon meilleur ami était membre de cette organisation. Comme vous le voyez, j'aurais eu assez de bons prétextes pour m'en rapprocher, mais jusqu'au début de la guerre, je n'ai adhéré à aucun parti. Je ne sais pas pourquoi cela ne me disait rien et ne me tentait pas. Peut-être avais-je des soucis de survie trop immédiat pour assister à des réunions politiques qui se tenaient à mes heures de travail. Mon ami le plus proche que j'adorais venait d'une famille qui s'occupait d'élevage, ou plus précisément de vente et d'achat de bétail, surtout des chevaux et des vaches. Cette famille habitait une maison de bois comportant deux étages au-dessus d'un rez-de-chaussée, maison qui pour Teltz pouvait être considérée comme assez spacieuse. Une maison emplie d'enfants. Dans la cour qui était très vaste, une étable surmontée d'une grange où l'on stockait le fourrage abritait les animaux. Là séjournaient aussi bien leurs propres vaches que des animaux ne faisant que transiter avant d'être vendus. Ils y faisaient une cure de santé car il fallait souvent les remettre sur pied. On leur donnait pour cela de la nourriture appropriée pendant un temps déterminé et quand ils avaient enfin meilleure allure, ils étaient remis sur le marché. Je me souviens du jour où mon ami acheta un cheval très affaibli et quasiment mourant qui ne tenait plus sur ses pattes. Après plusieurs semaines en bonne compagnie, il avait fini par ressembler à un vrai cheval. Le jour où on le conduisait au marché de Teltz, il avait été baigné, coiffé, brossé et pomponné comme une véritable mariée. Pour donner un peu plus de nerfs et d'allure aux pauvres bêtes, on utilisait à cette époque une pomme de terre chaude en guise de suppositoire. Ils en tirèrent facilement le triple de son prix d'achat. Non loin de la ville, ils possédaient une ferme où l'herbe poussait abondamment avant d'être coupée. Ensuite, elle était séchée en plein air et amenée en ville pour être stockée dans le grenier qui surplombait l'étable en prévision de l'hiver. Nous coupions alors l'herbe à la main, il n'y avait pas encore chez nous de machine à cet usage. Une fois coupée, l'herbe était dispersée pour mieux sécher, rassemblée en petits monceaux, puis amoncelée sur un chariot où elle pouvait atteindre une certaine hauteur. Grimper au sommet de cet édifice était mon grand plaisir, et le voyage jusqu'à la ville un agrément dont je ne me lassais jamais. Et si j'aimais cette famille pour elle-même, j'éprouvais aussi un attrait profond pour la campagne, qui ne s'est jamais démenti depuis. La mère de mon ami me dorlotait comme un de ses propres enfants. Quand je montais chez eux pendant qu'ils prenaient leur repas, elle m'invitait toujours à leur table. Et il faut convenir qu'il y avait à manger dans cette maison. Quand sa mère préparait une marmite, il y avait assez de vivres pour toute une armée. La famille n'achetait rien au magasin hormis le sucre et le sel, car la ferme produisait de tout. Bien entendu, les dérivés du lait, le beurre et la crème fraîche, mais aussi les œufs, les fruits et les légumes. À l'époque où ma mère avait déjà vendu notre vache, elle ne me laissait jamais repartir sans un bidon de lait. Il consommait de la viande tous les jours, ce qui était plutôt rare à Telz, égorgeant un veau ou un mouton dont il mangeait ensuite à volonté. Il faisait pousser toutes sortes de légumes et cuisait eux-mêmes leur pain. Mon ami était un grand jeune homme, solide, musclé par le travail physique. Nous étions très attachés l'un à l'autre et sortions beaucoup ensemble pour nous baigner et nager. Il ne détestait pas montrer sa force. Les garçons lituaniens eux-mêmes le craignaient. Nous aimions faire des promenades sur le lac en canot, en nous joignant à d'autres camarades, parce que le prix de la location était trop élevé pour deux. Mon ami m'offrit l'occasion de me perfectionner en équitation, ce qui me fut précieux pendant la première année de la guerre. En dehors de cela, nous jouions dans la même équipe de football du Bétard, mais pour ma part, je ne pouvais m'adonner au sport que le dimanche.
Dort wo großen Sehnen nasser, steht a grenne Zehe vertracht. Gehen Mädler ziehen Wasser, wie die Ämmer alle Nacht. Gehen Mädler ziehen Wasser, wie die Ämmer alle Nacht. Und der Sohn wie weiße Bären wachsen täg in großen Sod. Und von weitem Schein von Stern tanzen Jaten in a Rot. Und von weitem Schein von Stern tanzen Jaten in a Rot. Von die Steppes Winkler blosen und a Feierruder brennt. Gehen Mädler auf die Großen mit die Äler in die Hand. Gehen Mädler auf die Großen mit die Ämmer in die Hand. Wertle wohne blass und blasser, geht's beugt men in der Nacht. Dort wo großen Sehnen wasser, steht a kleine Zehvertracht. Dort wo großen Sehnen wasser, steht a kleine Zehvertracht. Dort wo großen Sehnen wasser,
Ich werde mir fragen, ich bin gewesen ein glücklicher und zufriedener Bucher. Ich sage nicht Ajosen, weil mein Tor das nicht sagen. Was soll ich euch sagen? Ich bin nicht gewesen unglücklich. Auch aus der materiellen Lage, was hat uns gebracht, viel Schwierigkeiten. Und von knapp 10 Jahren habe ich das alles nicht verstanden. Aber es ist ein Weg gelaufen. Etliche Jahre habe ich genommen verstehen, als mein Vater ist ein Weg von Versande und das ist für ihn gewesen der leichtste Weg. Anstatt nehmen sich in die Hand und gehen die Schwierigkeiten entgegen. Die ersten Jahre ist vorbei, in Verzweiflung und Hoffnung. Mendiges Ort wird er uns alle mal abnehmen und wir wollen alle leben in Paris. So sicher ist gewesen, ist der Ziel, uns abzunehmen, ist gewesen, nur in Honeb. Und in der zweiten Phase hat er beschlossen, als Verein wird sein bequemer zu sein allein. Dann hat sich meine Hoffnung verwandelt in eine Beiskeit. Und die Beiskeit hat sich verwandelt in eine Söhne. Aber wie eine Söhne zu Fremden. Das ist zwischen einem Vater, was fehlt, und einem Vater, was will nicht kommen. Und zwischen die zwei gegensätzliche Sachen rangt sich der Kind. Nur die Kinder, von welchen die Tate oder die Mama sind auf Weg, ohne sich zu sehen, einen Tag haben das gefühlt. Ich will noch schreiben weiter in einem anderen Ort, meine Treffung mit meinem Vater, noch 27 Jahre zur Scheidung. Lass mir sich umkehren zu mir. Ich kann nicht sagen, als ich habe gelebt tagtäglich mit dem Gedanken im Kopf. Nein, ich habe gelebt wie ein Jugendlicher, was hat lieb gehabt zum Leben. 20, mit was jeder kann sich zufriedenstellen. Alles im Leben ist relativ. Ob man guckt auf Hecher, kann man nicht sein zufrieden. Ich bin gewinn als zufriedener von meinem Leben. Gewöhnlich, die meiste Zeit von meiner Jugend habe ich verbracht bei der Arbeit. Aber ich habe gewusst, wie ich nutzen die freie Zeit bis zum Maximum. Die Arbeit pflegen mir endlich sehr spät, überhaupt Sommer. Bin ich nicht gewinn einer. Und wir haben sich alle gewusst, wo sich zum Treffen verbringen unsere freie Zeit. Sabbat und Sonntag pflegt sein, wie man sagt, aus Amerika. Also wie in Tel seinen kein Autobussen nicht gewinnen und auch nicht kein Autos, auch gut zwei Taxis und zwei Passanten Autos, ist die erste Sache, hat man gemusst sich einsaufen auf ein Velosoped. Und mit dem lernt man sich kennen, bewegen, viel schneller. Gewöhnlich auf die Telsersteiner hat man gemusst gut sich anhalten, weil es hat sich also getreißelt. Noch gut, was die Stadt ist nicht gewesen, also greis. Aber Sonntag pflegen wir ein Rest von hinter der Stadt. Und als man sagt, hinter der Stadt, ist das in gezählten Minuten. Weil wo man soll sich nicht geben, an drei, ist man schon im Dorf. Gewöhnlich ein Rest von mit jedem Mädchen ist gewesen, gemacht wie unmöglich. Ein vieles Jahr ist die, welche seinen mir gefallen, wollten mit mir nicht gegangen. Und die, was seinen geblieben, seinen mit dann mir nicht gefilmt. Was passiert, man hat gemacht ein Rendezvous mit einer litwischen Mädel. Nur als sie ist nicht gewöhnt, kein Antisemitke. Sie sind nicht gewöhnt als eine Überkleiberin. Andere Gewehr haben sich vernommen mit Politik, wie mein älterer Bruder Josef. Er ist gewöhnt in Beitar, sehr aktiv. Und sie fliegen herum mit sehr Uniformen, mit den Steckerlach, welche sie haben gehalten in Hand. Also wie alle Parteien, also auch sie haben gehabt ein Lokal, ein Saal, wo sie pflegen sich treffen und singen und tanzen. Nun ich pflege echt reinkommen, weil man heute kennt spielen im Ping-Pong und Geld. Und sie haben auch gehabt eine Fußballmannschaft. Und also wie ich habe das sehr lieb gehabt, pflege ich auch spielen mit sie. Wie sie haben mir reingenommen in sehr Fußballmannschaft. Mit sie pflege ich mit vorn spielen in anderen Städten gegen jüdische oder litwische Mannschaften. Zweitens, mein Ballabus, zwei Sinn pflegen echt dort kommen. Sie sind auch gewesen in Beitar. Auch mein bester Haver ist dort gewesen. Wie ihr seht, habe ich gehabt, alle Siebes dort zu kommen. Aber bis zum Krieg bin ich in keine Partei nicht hereingetreten. Ich weiß nicht, für was. Es hat mir Posit nicht gezeigt. Mein nächster und bester Haver ist gewesen von einer Familie, was haben gehandelt mit Behemes, mit Pferd und auch mit Kieh. Gelebt haben sie in einem Haus auf dem zweiten Stock, was vertellt, ist das schon gewesen ein ganz hohes Gebäude. Ein Tier mit einem Stub Kinder, von hinten in gewesen ein Häuf, wo sie pflegen halten, die Beheime sehr eigen und auch die, welche sie haben gehalten und sie gut aufpassen, es soll sein, gut zu verkaufen. Ihr gedenkt, wie mein Chaver pflegt kaufen ein Pferd, was ist, kam gestern auf die Fisch und von ihm machen ein ganzes Leid. Und dem Tag, wenn man pflegt, dem Pferd zu verkaufen, hat man ihm ausgeputzt wie eine Kalle und dann verkauft. Sie haben auch gehabt 3 Kilometer von Stadt Land und Felder, wo sie haben geschnitten die Gras und nachdem das Trickenen und Zusammennehmen und Bringen auf dem Boden in Stahl. In dem Dorf habe ich sehr lieb gehabt. Der Geruch von die geschnittenen Gras, aber man schneidet das mit der Hand, nicht mit der Maschine, wie Hand. Und nachdem so spreit man das. Und man trinkt das Eis Und nachdem legt man das zusammen in einem Berglach. Und dann führt man das in Stall mit der Fuhr. Es legt sich das in Fuhr sehr hoch. Und es ist sehr angenehm, sich zu gefinden, gar in der Höhe, auf die Höhe. Ich muss sagen, als der Dorf hat mir allemal zugezogen, bis heutigen Tag. Ich pflege seine sehr oft reingehen bei sie in Stub. Mein Chavers Mutter hat mir behandelt wie ein eigen Kind, allemal geladen zum Essen. Als man hat bei sie ausgekocht hat, top Essen, ist gewinn genug für die ganze Armee. Kein Fleisch hat in die Stube nicht gefehlt und auch nicht kein mittige Sachen. Sie pflegen durch keine Sachen nicht kaufen. Man hat gekehrt ein Kalb oder ein Selbst und man hat gemacht ein Leben. Mein Chaver ist gewinn ein höher und starker Bucher mit der Sach Muskeln von seiner physischen Arbeit. Wir sind beide gewinn zugebunden, einer zum zweiten. Wir pflegen sich gegen Boden zusammen und viel schwimmen. Und er hat sehr lieb gehabt, zu weisen seine Kraft. Und auch viele, die litwische Englisch, haben vor ihm mehr gehabt. Wir haben auch lieb gehabt, zu machen einen Spazier mit der Siffel auf der Rosere, mit anderen Chaveren, weil für zwei Menschen ist das gewinn zu teuer. Die Siffel pflegt sich vor Dingen auf so. Ich hat er mir erst gelernt reiten auf ein Pferd, was mir ist sehr zu nütz gekommen, dem ersten Jahr in der Armee. Zudem alles haben wir beide gespielt, Fußball in Betar.
Spielst du mir dem neuen Scherus, ist er rausgekommen? Ich hab sich verliebt in ein Jünger, der Scheinen.